France Inter. Karine Bécart, Ali Badou, le 7-9.
Mardi 27 octobre, bonjour à tous et bon réveil. Bienvenue sur France Inter. Marion Lourd, bonjour.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, reconfinement local, le week-end ou interdiction de se déplacer. L'exécutif examine tous les scénarios pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Conseil de défense pour trancher aujourd'hui et demain. On en parle à 8h20 dans le grand entretien de la matinale avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est déjà ouvert et sur l'application France Inter. Les autres titres, Marion.
Plus dure sera la chute. Prévision de croissance revue à la baisse face à la deuxième vague de l'épidémie. Le gouvernement déploie ses filets pour amortir le choc. Aux États-Unis, la nouvelle juge de la Cour suprême, choisie par Donald Trump, prend ses fonctions, ses premiers mots dans ce journal. Et puis le jour de gloire est arrivé. Jour de gloire, titre d'un disque hommage à la République. Hugo, Jaurès et Camus, lu par Birkin, Bouquet ou Marceau. L'album sort bientôt. Nous l'écouterons.
Invité de France Inter ce matin à 7h05. Avec vous, Karine Bécart.
Les syndicats seront consultés ce soir pour la première fois sur la crise du coronavirus. Mais que vont-ils proposer? Que vont-ils demander au Premier ministre? De laisser tourner l'économie du pays ou de privilégier la santé des salariés? Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, sera notre invité tout à l'heure à 7h50.
À tout à l'heure, Karine.
France Inter. Face à l'urgence sanitaire, deux jours pour trancher. Malgré le couvre-feu, l'épidémie de coronavirus flambe en France. Près de 27 000 nouveaux contaminés en une journée et 250 morts. L'exécutif doit jouer les pompiers. Plan d'action, un conseil de défense ce matin et un autre demain. Les spécialistes réclament pour beaucoup un reconfinement. Marion Ferrer, selon eux, trois options se dessinent.
Première option, un confinement qui ne porte pas son nom. Le couvre-feu serait avancé à 19h. Terminer donc le dernier verre entre amis à la sortie du travail. Le couvre-feu serait valable aussi le week-end et étendu à tout le territoire. La vie sociale serait réduite au maximum, mais l'économie pourrait continuer de tourner un peu. Deuxième scénario, un reconfinement total mais plus allégé qu'en mars dernier et qui pourrait se faire par région. Généralisation du télétravail, les écoles resteraient ouvertes. Fermeture, en revanche, des universités et peut-être des lycées avec des cours par correspondance. La rentrée des facs, c'est le grand loupé selon plusieurs experts, car c'est parmi les 20-30 ans que le virus circule le plus aujourd'hui. Troisième possibilité, la mise sous cloche des villes les plus touchées, Paris, Marseille, Lyon, Saint-Étienne. La population peut se déplacer, mais uniquement dans sa commune. Des métropoles comme Madrid l'expérimentent déjà. Tous les médecins que nous avons pu contacter sont unanimes. Il faut reconfiner. Les premiers effets seront visibles en 14 jours. Plus nous attendrons, plus ils mettront du temps à arriver. Et dans les hôpitaux, nous n'en avons plus.
Il faut donc aller vite. Entre les deux conseils de défense, aujourd'hui et demain, le Premier ministre va donc recevoir les partenaires sociaux et les chefs de partis, de groupes et d'associations d'élus. Objectif, parvenir à un consensus, Benjamin Mathieu.
Le gouvernement s'apprête à prendre de nouvelles mesures contraignantes. Et pour Roland Lescure, porte-parole et député En Marche, elle nécessite un large consensus politique.
Ce virus, il n'a pas de couleur politique, il n'a pas de passeport, il n'est pas membre de telle ou telle parti, il n'est pas de la majorité ou de l'opposition. On a besoin de se serrer les coudes, d'être extrêmement discipliné.
Un discours qu'entend Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. D'ailleurs, pour lui, le reconfinement n'est plus un gros mot.
La vie d'abord, la santé d'abord. Et s'il faut reconfiner, eh bien oui, ce sera dur pour l'économie, mais il faut d'abord sauver des vies. Parce que le problème, c'est ça, c'est la saturation de nos hôpitaux.
Même si Julien Bayou salue ce temps d'échange, le secrétaire national Europe Écologie Les Verts regrette le défaut d'anticipation du gouvernement.
On ne peut pas dire aux Français tout repose sur la responsabilité individuelle et laisser les clusters dans les entreprises se dérouler. On ne peut pas faire semblant de découvrir en octobre que les universités sont bondées.
Les différents partis vont profiter de ces rendez-vous pour faire passer quelques idées pour éviter le reconfinement, télétravail généralisé, cours en visioconférence à l'université ou encore désengorgement des transports publics.
Consultation probablement sans Christophe Castaner, le chef de file de La République En Marche à l'Assemblée, est positif à la Covid-19, tout comme une dizaine de députés ces derniers jours. Et vu la situation, la question d'un report des élections régionales de l'an prochain se pose plus que jamais. Selon le baromètre politique Odoxa pour France Inter, nous serions 7 sur 10 à souhaiter que le scrutin ait lieu plus tard. Explication dans le journal de 8h sur France Inter. L'économie française est elle aussi malade du coronavirus. Prescription de l'Assemblée, le plan de relance de 100 milliards adopté à main levée la nuit dernière. Première tranche, 22 milliards d'euros l'an prochain. Il faut bien cela pour soutenir la croissance submergée par la deuxième vague. Croissance encore moins bonne que prévue à la fin de l'année, admet Bruno Le Maire, le ministre de l'économie.
Je vous confirme qu'après un rebond que nous attendons autour de 16% au troisième trimestre 2020, la croissance sera négative au quatrième trimestre si de nouvelles mesures sanitaires devaient être prises dans les jours qui viennent. Nous vous proposerons d'augmenter les crédits des dispositifs de soutien à notre économie. D'ici là, aucun euro ne manquera pour les entreprises et pour les salariés qui en ont le plus besoin.
Bruno Le Maire au micro de Delphine Simon pour s'adapter au virus, dégainer les milliards du plan d'aide, mais aussi développer le télétravail. Fin septembre, 12% seulement des salariés travaillaient à distance selon les statistiques du ministère du Travail. Entre télétravail et couvre-feu, les transports s'adaptent en tout cas en Île-de-France. Dès 21h demain, comptez un métro sur deux sur le réseau RATP. Plus de trains en revanche entre 20h et 21h, nouvelle heure de pointe qu'a créé le couvre-feu.
7h06 sur France Inter. Et alors que le couvre-feu pourrait donc se durcir, une population est particulièrement touchée, Marion.
Celle des sans domicile fixe. Comment rentrer chez soi quand on n'a pas de chez soi? Delphine Evenou, les SDF tentent de s'adapter comme ils peuvent.
Avant le couvre-feu, David, trentenaire, avait l'habitude de faire la manche devant une supérette jusqu'à la fermeture des portes à 22h. Depuis 10 jours, c'est 2 heures plus tôt et au fond de ses poches.
Une grosse différence. D'habitude, j'arrive à me faire 80 euros par jour avec mes amis. Et maintenant, on est à peine à quoi, 30 euros.
Malgré ses faibles ressources, l'amende de 135 euros pour non-respect du couvre-feu ne lui fait pas peur.
J'ai un document au cas où c'est la police qui me contrôle. Il me dit rien. Je dis oui, je suis un monsieur de la rue.
Pas de souci, confirme Moussa.
La police nous reste tranquille, nous donne du bon courage et puis ça passe.
Ce n'est pas la police, mais les rues désertes que le jeune homme redoute.
Regarde, à partir de 21h, tu ne vois personne dans la rue. Je te retrouve seul. J'ai peur, madame.
Comme lors du confinement, Tony Palma, travailleur social chez Emmaüs Solidarité, observe les conséquences des restrictions.
Le fait de se retrouver encore une fois au milieu de rien, ça ne fait que renforcer leurs sentiments d'isolement, ça ne fait que renforcer les problématiques psychiques des personnes qui étaient déjà fragiles auparavant. Il faut tout simplement des endroits où elles peuvent se poser. Malgré les efforts d'ouverture de places supplémentaires, on est quand même bien en dessous des besoins.
180 000 places sont ouvertes selon le gouvernement qui a avancé de 2 semaines le plan hivernal. Les associations estiment que 250 000 personnes vivent à la rue en France.
Une conséquence en partie du coronavirus, nouveau plan d'économie en vue chez Rolls-Royce au Royaume-Uni. Des milliers de personnes manifestent aussi en Italie contre le couvre-feu et la fermeture totale des cinémas et salles de sport. À l'étranger, en Corse, c'est le D-Day, le jour J pour la nouvelle juge à la Cour suprême, Amy Coney Barrett, conservatrice choisie par le président républicain en place. Une victoire pour Donald Trump à 8 jours de l'élection présidentielle. Victoire bienvenue, même si elle était attendue. Correspondance Loïc Laurie.
52 votes contre 48, Amy Coney Barrett s'était écrit rejoint la Cour suprême. La juge ultra-conservatrice a prêté serment sans attendre à la Maison-Blanche avant de prendre la parole.
Le serment que je fais signifie par essence que je ferai mon travail indépendamment des politiques partisanes et de mes propres croyances.
C'est pourtant bien ce qu'espèrent les chrétiens évangéliques, notamment qui s'étaient rassemblés face à la Cour suprême. Ils comptent sur la juge Barrett pour obtenir une réduction drastique du droit à l'avortement, comme Spencer, un étudiant aux idées bien arrêtées.
Oui, je crois que ça pourrait se faire. C'est l'une des crises des droits humains les plus importantes de cette génération, le droit de tuer des bébés innocents parce qu'ils ne sont pas désirés.
Et si c'est loin d'être fait, le motif d'inquiétude est réel pour Sansar, qui proteste déguisée en servante écarlate.
Les femmes vont perdre leur vie, piégées dans des relations dont elles ne peuvent pas sortir, forcées d'avoir des enfants contre leur gré ou de mourir en essayant d'avorter.
Le droit, la religion, mais surtout la politique pour Donald Trump, qui remobilise cette frange très croyante de sa base, un électeur sur 4 dont il ne pourra pas se passer pour être réélu. Washington, Loïc Laurie, France Inter.
L'élection présidentielle américaine se jouera beaucoup aussi sur la gestion de l'épidémie. Reportage 7h15 dans le Zoom de France Inter. À son tour, le président turc appelle au boycott des produits français. Nouvel épisode de la controverse qui oppose Recep Tayyip Erdogan à Emmanuel Macron sur la question de la liberté d'expression et du traitement réservé aux musulmans. Nous serons en Turquie. Reportage dans le journal de 7h30 sur Inter. En France, 42e jour d'audience aujourd'hui au procès des attentats de janvier 2015 avec la suite de de l'interrogatoire du principal accusé, Ali Riza Polat, le seul présent à encourir la réclusion à criminel à perpétuité. L'accusé impulsif qui hier a tenté de clamer son innocence, Sophie Parmentier.
Le 7, le 8, le 9 janvier 2015, j'étais chez moi. J'ai fait tout ça sans laisser une empreinte ADN, fanfaronne Ali Riza Polat. Avec l'accusation avant les attentats, je suis extrêmement fort. Et après, une fois que ça part en couille, je deviens abruti. Dans un flot de paroles ininterrompues, avec les gros mots qu'il ne peut s'empêcher de dire, Ali Riza Polat se déclare innocent. Répète en boucle qu'il n'a pas été le complice des crimes terroristes de son ami Amedi Coulibaly, encore moins des frères Kouachi qu'il ne connaissait pas. Il jure qu'il a découvert les attentats à la télé, qu'il s'est alors mis à trembler avec cette dinguerie, mon esprit disjoncte. Et ainsi, il explique sa fuite, totalement désordonnée, juste après les attentats, Bruxelles, Beyrouth, la frontière syrienne, puis Phuket en Thaïlande, jusqu'au retour chez sa mère dans l'Essonne, où les policiers ont fini par l'arrêter, un co-accusé l'ayant balancé. Mais elle est où la preuve, crâne Polat, qui est pourtant jugé comme un maillon essentiel dans la préparation de ces attentats. Ce matin, il sera confronté aux fadettes téléphoniques des lignes conspiratives qui l'ont relié à Amedi Coulibaly jusqu'à la veille du premier attentat. Et Polat fera peut-être un peu moins le fanfaron.
Un lycéen présenté aujourd'hui au juge d'instruction en Haute-Saône. L'adolescent de 16 ans est en garde à vue à Vesoul après avoir posté sur un réseau social un message faisant l'apologie du terrorisme. Les réseaux sociaux qui devraient plus prêter l'oreille à leurs modérateurs. Appel d'un collectif d'associations aujourd'hui. Selon elle, Facebook devrait embaucher à plein temps ses modérateurs plutôt que de sous-traiter l'activité. Et ils devraient aussi écouter leurs propositions. C'est tout simplement un disque hommage à la République. L'album Jour de gloire sort dans quelques jours. Au générique, 19 artistes qui lisent Camus, Hugo, Jaurès ou Georges Sand. Il y a là M, Jane Birkin et Sophie Marceau. Disque réalisé pendant les attentats de 2015, mais qui prend, Mathieu Culeron, une résonance particulière peu après l'assassinat du professeur Samuel Paty il y a 10 jours.
Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants.
Professeur de musique Sébastien Baudria décide en 2014 de compiler les textes d'auteurs qui mettent en avant les grandes notions qui fondent la République. Michel Bouquet sera le premier artiste à accepter de participer au projet. 18 autres vont suivre. Et puis un an plus tard, ce sont les attentats. Sébastien Baudria.
Grosse claque, évidemment, en tant que citoyen bouleversé, retourné. Ça m'a aussi beaucoup fait réfléchir parce que ce qui était un projet, ce qu'il est toujours d'ailleurs absolument positif, fédérateur, etc. Et surtout artistique, est devenu presque malgré moi un projet presque politique ou en tout cas presque une arme à opposer à la barbarie et à l'obscurantisme.
On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité.
Sur ce disque, Mathieu Chédid récite la lettre à Germain d'Albert Camus, celle-là même lue à l'hommage national à Samuel Paty. Le disque devient un manifeste.
On n'est pas en Afghanistan ou en Syrie ni au Moyen-Âge, on est en France en 2020. Donc extrêmement choquant. Et il se trouve que cette chose arrive dans une temporalité où le disque sort en moins de 2 semaines. Je réfléchis pas, il y a une urgence à partager ça.
Laïcité, égalité des sexes, apologie du savoir, Jour de gloire est une ode à la République, les grands textes qui fondent une nation par les artistes du moment, tout simplement.
Enfin, ils seront hommes.
Sorti le 5 novembre prochain, la gloire sera-t-elle au rendez-vous? Les footballeurs de l'OM reçoivent ce soir Manchester City au Vélodrome en deuxième journée de Ligue des Champions. Enfin, l'information a un prix. 15% seulement des Français seraient prêts à payer pour une information sûre, selon un sondage Ipsos publié aujourd'hui. C'est beaucoup moins que le reste du monde. Et pourtant, on le sait ici, hein, Ali, l'information vaut le coup. C-O-U-T.